Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir le trésor de la foi chrétienne semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose à chaque épisode de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast est proposé chaque jeudi à 17h sur Radio Courtoisie, puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute le dimanche à midi. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Saison 2, épisode hors série numéro 3, la semaine sainte. J'interromps donc les commentaires du catéchisme de l'Église catholique, puisque ceux qui écoutent cet épisode en direct l'écoutent le jeudi saint, et certains l'écouteront le jour même de Pâques. Et donc il me semblait un peu plus intéressant, plus conforme à l'enseignement de l'Église à travers sa liturgie, parce que la liturgie évidemment est un lieu théologique, plutôt de profiter de cette occasion pour vous proposer une petite méditation à l'occasion de la Semaine Sainte. Alors pour cela, j'ai choisi un thème que l'on trouve dans certaines traditions en Espagne, en Amérique latine, ce qu'on appelle la prédication des sept paroles du Christ en croix. J'ai déjà eu l'occasion d'assister à cela en Colombie, par exemple. Donc après le chemin de croix du Vendredi Saint, la tradition veut que un prêtre prêche au sujet des sept paroles du Christ. C'est des prédications qui peuvent durer plusieurs heures, à la façon sud-américaine. Les gens rentrent, sortent, écoutent une partie, etc. Mais avec beaucoup de dévotion et de piété. Pourquoi les sept paroles du Christ en croix? Parce que, évidemment, la croix est la révélation la plus radicale de Dieu. C'est la plus radicale parce que un homme mort, tel qu'on le représente d'ailleurs, à tous les croisements des chemins, sur nos pendentifs et dans nos salons, devrait être quelque chose de tout à fait bouleversant. Tout à fait choquant. J'aime bien prendre cet exemple. Imaginez, vous êtes invité chez des amis, vous rentrez chez eux, et puis dans le salon, il y a un grand portrait d'un homme pendu, mort, au bout d'une corde. Au cours du dîner, vous rendez compte que la maîtresse de maison, qui est très élégante, a une chaîne, et au bout de la chaîne, eh bien, il y a la représentation d'un homme pendu, mort, au bout de la corde. Et puis, on vous invite dans une chambre, et puis, au-dessus du lit, il y a encore une représentation de ce pendu. Voilà. Vous risquez de vous dire rapidement que vous êtes tombé chez des fous. Eh bien, imaginez que nous, chrétiens, nous représentons un homme mort sur la croix, sur une croix, défiguré par la passion qu'il vient de subir. Et donc, bien sûr, nous sommes habitués à voir cela, cette image de la croix, mais il faudrait qu'elle nous réveille. Évidemment, comme dit saint Paul, c'est un scandale pour les juifs, une folie pour les païens. Mais évidemment, cela doit être pour nous et une folie et un scandale. Cette représentation de la croix, bien sûr, nous savons que le Christ est mort mais ressuscité. Et néanmoins, il faudrait que chaque fois que nous passons devant la croix, eh bien, nous soyons, notre cœur se révèle, dresse les yeux vers la croix, comme vers le signe de notre salut. Parce que la croix ne nous laisse pas comme de simples spectateurs. Imaginez le jour où le Christ a été crucifié. Eh bien, il y avait des curieux qui devaient passer par là, peut-être détourner les yeux, peut-être regarder avec curiosité. Mais combien sont entrés dans le mystère? De la même façon, nous-mêmes, à quelle profondeur sommes-nous entrés dans ce mystère d'un Dieu qui se fait homme et qui meurt sur une croix? Sur le bois du supplice, le Christ ne parle pas pour lui-même, mais pour révéler son Père et pour nous sauver. Alors, ces sept paroles du Christ en croix, puisqu'elles sont les dernières paroles prononcées par Jésus-Christ, sont évidemment comme son témoignage. Sont le dernier trésor qu'il nous a laissé avant de mourir. Alors prenons-le comme tel, et puis essayons de voir ce que c'est cette parole que l'on va étudier une par une, et bien ce qu'elle signifie pour nous, ce qu'elle nous enseigne, et en quoi ces paroles sont un appel. C'est non seulement un enseignement, mais il me semble chacune peut être vue comme un appel. Faisons d'abord le tour pour avoir bien en tête les paroles. Ceux qui écoutent, vous pouvez mettre pause et essayer de vous les remémorer vous-même pour voir si vous avez bien écouté le chant de la Passion. Si vous avez bien lu les évangiles de la Passion, d'ailleurs, si vous écoutez ça pendant cet épisode, pendant le temps du carême, le temps de la Semaine Sainte, eh bien, prenez le temps de lire les quatre évangiles de la Passion, ou encore, mieux encore, d'assister aux cérémonies. Alors, évidemment, l'évangile de Saint Matthieu est chanté pendant la Passion selon Saint Matthieu est chanté pendant le dimanche des Rameaux. Et puis, le Mardi Saint, c'est la Passion selon Saint Marc. Le Mercredi Saint, la Passion selon Saint Luc, et le Vendredi Saint, la passion selon Saint Jean. Alors, quelles sont ces sept paroles? Si vous avez mis pause et que vous avez réussi à les retrouver, je vous félicite. La première parole, c'est « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est une parole qui est tirée de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 23, verset 34. Seconde parole, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». La parole adressée au bon larron, toujours dans le chapitre 23 de Saint Luc, verset 43. La troisième parole est celle adressée à la Sainte Vierge et à Saint Jean, « Femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère ». Ça c'est dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, versets 26 et 27. Ensuite, une phrase que l'on trouve et chez Saint Matthieu, chapitre 27, et chez Saint Marc, chapitre 15. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sur laquelle on s'arrêtera, évidemment. La cinquième parole, « j'ai soif », chapitre 19 de Saint Jean, verset 28. Et puis « tout est accompli », verset 30 du même chapitre 19 de Saint Jean. Et enfin, la dernière parole, on revient dans les synoptiques, chez Saint Luc, chapitre 23, verset 46. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Voilà, donc tu vois, ces sept paroles forment comme un testament spirituel du Christ. Ce sont des fragments épars, évidemment, vous l'avez vu, on les prend dans différents textes, mais on peut les considérer comme constituant une unité, une certaine, je rappelle, une liturgie de la rédemption, où vont être manifestées dans ces derniers mots du Christ les dimensions essentielles du salut. Sans plus tarder, examinons théologiquement et puis spirituellement chacune de ces paroles. La première donc, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». On peut dire d'une certaine façon que le Christ révèle ici le cœur même de Dieu. Dieu est miséricorde. Dieu est miséricorde et alors qu'il meurt sur la croix, au lieu de, évidemment, de maudire, de condamner, eh bien, il pardonne. Il pardonne, vous le savez, on a eu l'occasion d'en parler dans notre étude de Dieu, dans la première partie du catéchisme, la miséricorde est la plus grande des œuvres de Dieu. Ce que dit saint Thomas d'Aquin, par exemple. Pourquoi? Parce que être miséricordieux, dit-il, sur un fondement étymologique peut-être un peu hasardeux, mais il dit c'est misericordia en latin, c'est misericordare, c'est-à-dire donner son cœur au misérable, et donc à celui qui est dans la misère. Et donc, plus quelqu'un est haut dans la hiérarchie des êtres, plus il peut se pencher vers ceux qui sont plus misérables. Et donc, la miséricorde est la plus grande des œuvres de Dieu parce que elle suppose la toute-puissance. Et celui qui est tout-puissant peut seul relever la misère de toute la création, de toutes les créatures. Alors, en Dieu, bien sûr, la miséricorde est une œuvre typiquement divine, propre à Dieu. Et d'ailleurs, j'ajoute spirituellement pour nous que douter de la miséricorde de Dieu, le démon nous fait croire, le démon nous dit « tu fais toujours les mêmes péchés, Dieu ne va jamais te pardonner, ou alors ce péché est trop grave, ou alors tu es tombé trop souvent dans le même péché, tu as recommencé, donc Dieu ne voudra pas te pardonner ». Et douter de la miséricorde de Dieu, c'est finalement douter de la toute-puissance de Dieu, c'est douter que Dieu est Dieu. Et c'est là où c'est une victoire du démon. Donc évidemment, il ne faut pas se laisser séduire ou décourager par cette phrase, par ces tentations du démon qui mettent en cause la miséricorde de Dieu et donc sa toute-puissance. J'ajoute aussi que ce pardon, bien sûr, ce pardon terrible du Christ sur la croix, hein, qui est en train de mourir sur la croix, d'être traité comme un moins que rien, ce n'est pas une simple indulgence. Évidemment, le Christ ne dit pas ce que vous faites, c'est pas grave. Il dit pas c'est pas mal. Le Christ ne nie pas le mal, mais il traverse le mal, on peut dire. Ça, le pardonner, ce n'est évidemment jamais nier le mal qui a été commis. Autrement, ce serait terrible, ce serait absurde, ce serait complètement injuste. Pardonner, ça voudrait dire, le chrétien qui pardonne, ce serait celui qui deviendrait indifférent au mal. Et c'est évidemment absurde, c'est vraiment le contraire du pardon. Non, pour pardonner, il faut être capable de reconnaître le mal, de dénoncer le mal. Mais ceux qui doivent pardonner à des supplices qu'ils ont subis, ceux qui ont subi des choses dramatiques, des choses graves, qui ont abîmé leur vie ou parfois détruit leur vie, bien évidemment, il ne s'agit pas de nier le mal. Il faut au contraire être capable de dénoncer le mal. Et dénoncer le mal, ça signifie parfois en tout cas, dénoncer les coupables et faire en sorte qu'ils soient condamnés, pour qu'ils payent le mal qu'ils ont fait. Et pourquoi? Parce que celui qui pardonne, qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Ça veut dire ne pas chercher à se venger, ça veut dire ne pas chercher à rendre le mal pour le mal. Donc ne pas vouloir du mal à celui qui a commis du mal, mais vouloir son bien. Mais qu'est-ce que le bien? Et en particulier le bien d'un criminel. Eh bien le bien d'un criminel, c'est que il réalise le mal qu'il a fait, qu'il demande pardon, et qu'il rachète le mal qu'il a fait. Soit par la justice, soit par ses œuvres bonnes, par une vie de pénitence. Et donc, vouloir, enfin, pardonner, vous voyez, à son agresseur, dans le cas, je sais pas, d'un assassin, celui qui a tué vos enfants, celui qui a tué votre famille. J'entendais un témoignage, là, récemment, sur Légende, là, dans une femme qui disait que son frère a tué toute sa famille. On lui demande, est-ce que vous avez pardonné? Il dit, je ne sais pas ce que ça veut dire pardonner. Ben, j'aurais voulu lui dire, mais pardonner, évidemment, ça veut pas dire que fermer les yeux sur le mal. Ça veut dire vouloir, finalement, le bien de celui qui a fait du mal, c'est-à-dire, qu'il se repente, qu'il demande pardon et qu'il passe sa vie en pénitence ou en prison s'il a besoin de pour payer le mal qu'il a fait et à la famille et à la société, bien sûr. Donc le pardon c'est pas l'indifférence au mal. Le pardon évidemment ne nie pas le mal, au contraire il nécessite de le reconnaître. Et le Christ quand il dit pardonne-leur, Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils sont en train de commettre. Alors, je disais, toutes ces paroles sont un appel. En quel sens cette parole est un appel? Eh bien, évidemment, c'est un appel à la miséricorde de notre part, au pardon. Sommes-nous capables de pardonner, même si l'autre ne m'a pas demandé pardon, même s'il ne m'a pas encore demandé pardon? Bien sûr, il faut souhaiter, il faut prier pour que l'autre, comme je l'ai dit, réalise le mal qu'il a fait et demande pardon. Mais pardonner, c'est vouloir que l'autre devienne meilleur, donc qu'il se rachète, mais non pas qu'il subisse la vengeance, ma vengeance. Donc, est-ce que je suis capable de pardonner? Parfois, ceux qui écoutent peut-être, que vous avez en tête un frère, une sœur, un parent, envers qui vous avez beaucoup de rancœur, et vous dites, je ne lui pardonnerai jamais. Il faut sortir de cette logique. D'ailleurs, parce que celui qui ne sait pas pardonner, finalement, se fait du mal à lui-même, avec le mal qui, la vengeance, la rancœur qui ronge intérieurement. Donc le pardon, bien sûr, est aussi une libération. Deuxième parole du Christ en croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui, tu seras dans mon royaume. C'est cette parole adressée par le Christ au bon larron. Le bon larron, c'est ça qui est intéressant. Il n'a rien à offrir. Il n'a pas de mérite, il n'a pas de bonne œuvre. Il est en train de mourir sur la croix, condamné. Et pourtant, il est sauvé. On dit souvent que le bon larron a volé toute sa vie. Il a y compris le paradis. Au dernier instant, il a volé le paradis. Alors pourquoi est-il sauvé? Il est sauvé parce que dans cette phrase, où il dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume », eh bien, c'est peut-être le plus bel acte de foi que l'on trouve dans la Sainte Écriture, dans l'Évangile. Il faut imaginer la scène, il faut se représenter cette scène dramatique, évidemment terrible, mais ce voleur criminel qui est condamné à mort pour les crimes qu'il a commis, voit à côté de lui un autre condamné, dont il sait, dont il réalise qu'il était innocent et que lui, il prend sur lui le mal des hommes, et sous l'apparence d'un homme défiguré, flagellé, humilié et qui est mourant, il voit Dieu. Donc évidemment, par les yeux de la foi, c'est la foi qui lui montre que sous cet homme souffrant, eh bien c'est Dieu qui est présent. Et donc c'est un acte de foi immense, un acte de foi incroyable du bon larron. Et c'est cela qui le sauve. C'est la foi qui nous sauve, bien sûr. Alors la foi vivante, accompagnée des œuvres, mais par principe, c'est la foi qui sauve. C'est parce que il n'y a que le Christ qui nous sauve. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est notre adhésion au Christ, le fait de reconnaître. Ici, j'ajoute que le bon larron, bien sûr, en demandant pardon, enfin en reconnaissant la faute, le Christ comme sauveur, il reconnaît aussi sa faute et nous le méritons, mais lui ne le mérite pas. Donc il reconnaît sa faute, et il reconnaît la royauté du Christ, et la divinité du Christ, et c'est ça bien sûr qui lui ouvre les portes du paradis. Alors, en quoi est-ce un appel pour nous? Évidemment, c'est un appel à me convertir aujourd'hui, immédiatement. Si je mourais aujourd'hui, dans quelques instants, Est-ce que j'aurai ce mouvement du cœur vers le Christ, ce mouvement de la foi? Est-ce que je suis capable de me tourner vers Dieu? Souvent, on entend des gens qui disent « Non, je n'ose pas prier, je n'ose pas me tourner vers Dieu parce que je ne suis pas à la hauteur. » Bien sûr, personne n'est à la hauteur. Personne. Je ne suis pas digne. Personne n'est digne. Personne n'est digne. Au contraire, ce que Dieu nous demande, c'est que l'on reconnaisse notre indignité. Et il nous dit « Je m'occupe du reste. Je m'occupe du salut. C'est moi qui ai payé ce qu'il faut pour vous sauver. » Et donc, ce bon larron, évidemment, est l'exemple même de celui qui est dans l'indignité du criminel, mais qui se tourne vers Dieu. « Mon Dieu, sauvez-moi, sauvez-moi. » Je ne sais pas comment ni quand, mais en tout cas, je vous fais confiance. Donc un acte de foi pressant et efficace, parce qu'il est d'une sincérité déroutante. La troisième parole, cet échange entre Saint Jean et la Sainte Vierge qui sont au pied de la croix. Et donc au chapitre 19 de Saint Jean, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors, ce qui est aussi étonnant dans cet échange, c'est que il se joue quelque chose d'incroyable, et en même temps, c'est dit en quelques mots. Il y a une espèce de sobriété des propos qui est assez déroutante, et pourtant, théologiquement, c'est incroyable. C'est un acte, disons, ecclésial. La mère du corps du Christ devient la mère du corps mystique du Christ, la mère de l'Église. La très sainte Vierge Marie devient mère des croyants. Et les disciples, dans la personne de Saint Jean, deviennent fils. Puisque ce que nous donne le Christ par sa mort et sa résurrection, c'est la grâce. La grâce qui va nous donner sa vie même. Comme il donne sa vie pour le monde, il nous donne sa vie par les sacrements, par le baptême, et tout ce qui va découler de sa mort. Et comme l'eau qui découle du côté transpercé du Christ, bien sûr, comme l'eau du baptême qui découle de son côté. Et donc, il va irriguer tous les chrétiens, tous ceux qui appartiennent à l'Église, en leur transmettant sa propre vie. Et puisque son corps a été engendré de la Vierge Marie, eh bien, la Vierge Marie devient mère, au sens strict, celle qui a transmis la vie, de tous ceux qui appartiennent au corps mystique du Christ, c'est-à-dire au corps spirituel du Christ, à savoir l'Église. Et réciproquement, donc voici ta mère, voici ton fils. Cette appartenance nous montre que le Christ nous confie à sa propre mère. Et là aussi, une réponse à tous ceux qui, sous l'influence du protestantisme, refusent ce rôle de médiatrice de la Vierge Marie. Le Christ lui-même sur la croix nous dit en la personne de Saint Jean, voici ta mère. Et à partir de ce jour-là, le disciple l'a pris chez elle. Alors là aussi, c'est un appel envers nous. Est-ce que nous prenons chez nous la Vierge Marie? Est-ce que nous vivons chaque jour auprès d'elle comme une mission que le Christ nous confie, comme le moyen que le Christ nous a confié pour être près de lui? Et donc accepter la maternité de la très sainte Vierge Marie, c'est accepter la grâce divine, c'est accepter cette médiation vers le médiateur. Alors, posons-nous la question, c'est un appel, voilà, qu'avons-nous fait de ce don de la Vierge Marie? Est-ce que je vis vraiment une vie chrétienne en communion, en proximité avec la très sainte Vierge Marie? Quatrième parole du Christ en croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, tout d'abord, ce passage, bien sûr, c'est un cri du cœur, mais c'est aussi le premier verset du psaume 21, le psaume 22 dans la numérotation hébraïque. Et donc, c'est le début d'une prière, et ce psaume 21 décrit le serviteur souffrant, décrit le Messie attendu qui va souffrir et qui va donner sa vie pour racheter le péché, qui va s'offrir en sacrifice. Et donc, le Christ s'identifie dans ces paroles avec le Sauveur, celui qui, par sa mort, par sa souffrance, rachète les péchés du monde. On peut dire aussi, évidemment, que le Christ a voulu, dans son incarnation, connaître, assumer jusqu'au bout la condition humaine. C'est-à-dire connaître toutes les formes de souffrance. Il a connu la souffrance physique, souffrance morale, souffrance psychologique, le rejet, l'abandon, la trahison de ses amis, le mépris, etc. La haine. Mais il veut aussi connaître l'épreuve du doute, donc du manque, enfin comment dire, l'épreuve de la nuit de la foi. Voilà, le doute, c'est-à-dire le fait même de connaître la nuit de la foi. Alors évidemment, le Christ reste Dieu, il est uni par l'union hypostatique à son Père, donc il n'est pas du tout abandonné, mais il assume la psychologie du doute et de l'abandon. Pourquoi ? Pour que jamais personne ne puisse dire au Christ, Seigneur, tu ne sais pas ce qu'est ma souffrance. Même, y compris, ma souffrance de la foi, de la nuit de la foi, eh bien, le Christ nous accompagne. Alors là encore, c'est un appel pour être capable de passer par les sécheresses de la vie chrétienne. Lorsqu'on n'a plus les consolations de Dieu, lorsque Dieu ne se fait plus sentir, est-ce que ma foi reste vive? Est-ce qu'elle reste vivante? Est-ce qu'elle reste solide? Voilà. Dieu, le Christ lui-même veut nous apprendre que il faut aimer Dieu pour ce qu'il est, et non pas pour les dons qu'il nous fait, non pas pour ses consolations. Très souvent, évidemment, Dieu nous donne des consolations, nous fait ressentir sa présence, et puis, mais il ne faudrait pas s'attacher à ces sentiments, à ces émotions, au détriment de Dieu. Ce serait comme aimer celui qui nous fait des cadeaux, pour ses cadeaux, et non pas pour celui qu'il est. Cinquième parole, en deux mots, j'ai soif. En latin, c'est même un seul mot, sit sio. Bien sûr, le Christ exprime ici sa soif corporelle de celui qui meurt, mais c'est évidemment une soif spirituelle. C'est ce qu'explique le grand saint Augustin. Dieu a soif de l'homme. Dieu a soif des hommes, des âmes. Comme nous, on connaît tous le sentiment de la soif, l'impression de ne plus pouvoir vivre, de ne plus pouvoir respirer, parce que jusqu'au moment où on aura épanché sa soif, eh bien, la vie du Christ, c'est la même chose. Il a soif de la présence des hommes, du salut des hommes. Alors, c'est là aussi un appel pour nous. Est-ce que je suis capable de répondre à ce désir de Dieu? Voilà. Dieu a soif des hommes, il a fait tout ce qu'il fallait. Qu'aurait-il pu faire de plus, comme on dit dans les impropères, le Vendredi Saint? Ô mon peuple, je t'ai tiré d'Égypte, je t'ai fait traverser la mer Rouge, je t'ai guidé dans le désert, je t'ai donné la manne, voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Et ça s'adresse à nous, évidemment, le Christ qui nous dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus que donner ma vie, donner l'Église, les sacrements, la prière, toute cette présence, qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus pour te prouver que je suis un Dieu d'amour qui vient jusqu'à toi pour te donner la vie éternelle. Sixième parole, tout est accompli. Tout est accompli. Le Christ a accompli les Écritures, il a accompli la volonté du Père, il a accompli le salut du monde. En quelque sorte, il n'y a plus rien à ajouter à la rédemption. Mais, paradoxalement, tout est accompli de son côté, mais comment est-ce que nous recevons cet accomplissement de l'œuvre de Dieu? Voilà, est-ce que je reste indifférent à l'œuvre de Dieu? Voilà l'appel de cette parole. Tout est accompli, et toi, est-ce que tu réalises que tout est accompli? Ou est-ce que ton orgueil spirituel prétend qu'il n'y a pas assez, qu'il faudrait faire davantage, que c'est à toi de faire des choses? Donc cet appel, c'est envers nous, comment accueillons-nous ce mystère de la rédemption? Cette œuvre de la rédemption. Et puis enfin, dernière parole, septième parole du Christ en croix, « Entre vos mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Le Christ meurt dans un acte de confiance parfaite. Il ne subit pas la mort, mais il se remet. Comme il le dit dans l'évangile de Saint Jean, dans le discours après la scène, il dit « Ma vie, on ne me la prend pas, mais c'est moi qui la donne. » Alors, évidemment, c'est un appel pour nous à l'abandon, à la confiance, à l'offrande, à... Vous voyez, quand on a peur de perdre le contrôle sur notre vie, sur les choses, lorsqu'on a peur de l'inconnu, lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on a la peur de Dieu lui-même, qu'on manque de confiance, eh bien, apprenons nous aussi à dire cette parole, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains, comme d'ailleurs les prêtres et les religieuses le disent chaque soir dans les complis. In manus tuas domine commendo spiritum meum. Voilà. Apprenons cette œuvre de la confiance et de l'abandon face à cette générosité du sacrifice du Christ. Alors, vous comprenez que c'est cette parole, évidemment, on pourrait méditer longuement sur ce moment de la mort du Christ. D'ailleurs, je vous invite à, comme je le disais tout à l'heure, à relire les évangiles, enfin, les textes de la Passion, et vous verrez que, par exemple, dans la Passion selon Saint Jean, le Christ meurt simplement, il rend l'esprit, comme il incline la tête, il rend l'esprit comme, dans le silence, dans la simplicité, alors que dans l'évangile de Saint Matthieu, au moins, il pousse un grand cri. Je crois qu'en Saint Marc aussi, le Christ pousse un grand cri avant de rendre l'esprit. Alors ces deux approches sont très intéressantes. Ça montre la complexité du mystère et la perfection de cette œuvre accomplie par le Christ. Alors voyons ces sept paroles comme un véritable témoignage pour nous, un véritable testament. Et puis laissons le Christ nous poser ces questions. Est-ce que je pardonne? Est-ce que je me convertis? Est-ce que je vis comme un fils? Est-ce que je tiens dans la nuit? Est-ce que je sais répondre à l'amour de Dieu? Est-ce que j'accueille le salut comme un don? Et est-ce que je m'abandonne vraiment? Alors, prions le Saint-Esprit de nous éclairer pour mieux comprendre ce mystère de la rédemption, ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Merci à tous de votre écoute attentive de cet épisode spécial. La semaine prochaine, de même, ce sera un épisode hors série au sujet de Pâques et de la résurrection. C'était l'abbé Mathieu Raffray, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, que Dieu vous bénisse.